Et dorénavant, tous les ans, vous aurez une anthologie qui reprendra le thème du festival. Ce qui finalement paraît assez logique. On a mis 8 ans pour penser à cette idée naturelle et intelligente. Bon, en fait, on voulait dans un premier temps, pendant les 8 premières années, avoir l'idée de lancer cette anthologie, de faire découvrir un peu les grands archétypes de la fantasy. Les rois et les capitaines, les magiciennes et les sorciers, les bourreaux et les victimes, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où nous avons confié l'anthologie à notre ami Jean-Claude Van Proyen, éminent responsable de rubrique littéraire du journal Le Soir de Bruxelles, par ailleurs, ci-devant vice-président du jury du prix Imaginal, et donc homme de goût, et Jean-Claude a eu l'idée de nous proposer un sujet qui était fait et automate. Fait et automate, on était bien sûr dans la fantasy, mais on basculait déjà un peu dans la SF. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un peu épuisé l'ensemble des grands sujets de la fantasy, et que donc il était peut-être temps de passer à autre chose pour ronronner le festival à ses habitudes, à ses magic mirrors, à ses formules que vous retrouvez, mais de temps en temps, on aime bien quand même bouger et changer. On a un thème maintenant, c'est-à-dire on va prendre tout simplement le thème, ce qui va nous permettre d'élargir l'anthologie, et de ne pas nous limiter à la fantasy, mais élargir au fantastique, pas cette année, mais il y en aura sans doute les années prochaines, et à la science-fiction. Avec Destination, il aura quand même été une mauvaise grâce de ne pas avoir quelques textes de space opéra, comme nous l'avons fait, n'est-ce pas, Jean-François Thomas. Donc, plutôt Planète Opéra, dans le cas de Jean-François Thomas, pour être précis. Donc, autour de Destination, on a aussi réussi à avoir notre ami Serruti et Jean-François Plateau, qui sont en fait deux auteurs qui ont beaucoup de mal à écrire court. En fait, tout ça part d'une boutade. Lorsque j'ai envoyé un mail à toute l'équipe, ce que j'avais réuni autour de cette anthologie, je leur ai proposé de faire un texte de 30 000 signes minimum. J'ai évidemment fait une erreur dans ma frappe, c'était maximum. Je voulais des textes courts au départ, et puis je me suis retrouvé à avoir un texte de plus de 100 000, qu'on a fait un peu raccourcir, hein, de quasi 100 000, et là j'ai complètement paniqué, parce qu'après il y a l'éditeur qui n'est pas d'accord. Donc vous, qui allez payer 30 euros l'heure, tout c'était pas possible. Donc on a quand même dit aux autres, faites plus court. Et puis on est obligé de demander une petite rallonge de page à l'éditeur, je remercie l'édition de Nemos d'avoir bien voulu nous faire cette petite, ce petit cadeau. Voilà, la présentation est en fait, je propose tout simplement de commencer par l'un des auteurs qu'on sollicite depuis des années, donc tout simplement notre ami Stéphane Plateau, qui jusque-là nous a... C'est vrai, Stéphane Plateau qui ne tenait absolument pas à nous faire d'histoire, tout simplement parce que 30 000 signes maximum, ce n'était pas possible pour lui. Ça tombait bien, la petite erreur de frappe. Écrit jamais en dessous de 100 000 signes. Donc, ainsi que François Serruti qui s'est lâché, Fabien Serruti, avec Fabien Serruti qui s'est lâché, on a évidemment réussi à avoir deux très très beaux textes, vous le verrez, longs. C'est vraiment le problème de la longueur qui vous avait empêché Stéphane Plateau de participer jusque-là à cette anthologie.
Non, non, c'est impossible, le retard, ça compte dans longueur en fait. C'est plutôt que j'essaie de me battre pour sortir un tome tous les deux ans et que c'est assez difficile de en plus, ça a été pendant un mois, deux mois, voire trois mois pour écrire un autre texte et puis tenir le délai. Donc, c'est le problème quand on est dans une série et qu'on a un métier à côté, comme beaucoup d'écrivains. En fait, il ne faut juste pas faire l'erreur de faire une scène. Mais là, ce qui a changé, c'est que tu m'as dit que je n'avais pas le choix, en fait.
À un moment donné, on publie les auteurs, ils viennent plus aux imaginaires. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que ça faisait des années qu'on sollicitait Stéphane pour qu'il nous fasse une nouvelle. Et bon, on peut refuser une fois, deux fois, trois fois, la quatrième, ça aurait été une mauvaise grâce.
Ça aurait été durant.
Le texte est vraiment beau. Destination, ça vous a inspiré. Alors, quand on lit vos deux premiers romans, on voit quand même que le voyage est quand même un élément naturel pour vous.
Oui, c'est vrai que, outre le fait que j'avais parfois le thème, effectivement, comme tu le disais, parce que cette phrase exacte, j'ai toute la malhonnêteté de dire que cette phrase exacte, c'était. C'est le thème qu'on te propose cette année, là tu peux pas refuser. C'est déjà plus subtil que non, tu n'as pas le choix. Mais oui, c'est vraiment un très beau thème. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était que Destination, dedans, elle entendait Destin. Moi, j'entendais aussi Nation, et Destinée d'une Nation. Or, il y avait quelque
avez aussi fait d'Exolon un texte de voyage, vous partez vers la Chine, donc ça nous emmène sur Terre, mais quand même loin. On ne dira pas, évidemment, au public la Chute finale, parce que sinon, c'est quand même aussi une autre destination que la Chine, on verra. Vous avez repris un personnage qui est un personnage historique, comme souvent.
L'idée, comme d'habitude, est de mélanger l'histoire réelle et la fantasy, puisque il s'agit de Jean de Mandeville, qui est un aventurier explorateur du XIVe siècle, un peu à la Marco Polo, qui a écrit lui aussi le livre de ses voyages. Si ce n'est que les historiens actuels considèrent qu'il a inventé une partie de ses voyages, ou plus exactement, il a repris des récits faits par d'autres à son époque. Et j'ai imaginé qu'on pourrait retrouver des feuillets inédits de Jean de Mandeville qui correspondraient aussi possible au monde que j'ai créé autour du Moyen-Âge. Et de fait, dans cette histoire, il rencontre la comtesse de Champagne qui a du sang elfique dans les veines et qui l'envoie dans le lointain Orient pour retrouver la race disparue des elfes de Jade et découvrir les secrets dont elle a besoin pour ses propres projets qu'effectivement on ne peut pas révéler, mais qui ont un lien direct avec, comme Stéphane, le sens exact du mot qui nous a été donné, destin, nation, destination.
Vous m'avez un peu compliqué la vie les uns et les autres en faisant des textes riches, parce que, bien évidemment, j'avais quand même une petite envie de présenter de façon cohérente vos textes, et donc j'ai choisi de les partager en destin, nation et destination. Et comme vous le verrez, certains textes mordent un peu, même s'ils ont une dominante. Alors bon, un classement vaut ce qu'il vaut, mais voilà, ce sont vraiment des textes qui mélangent science-fiction et fantasy, soit parce qu'ils ont fait le choix de la fantasy, soit parce qu'ils ont fait le choix de la science-fiction. Quelques-uns d'entre eux, vous le découvrez, vous croyez quand vous commencez que c'est de la science-fiction et en fait c'est de la fantasy, ou vous croyez que c'est de la fantasy et en fait c'est de la science-fiction. Nos auteurs sont vraiment capables de toutes les audaces. Aurélie Wallenstein, vous êtes le coup de cœur du festival, donc je n'avais pas le choix. Vous deviez nous faire un texte, vous êtes partie du contrat. Bucéphale au cœur des ombres, alors c'est plus fort que vous, Aurélie. À chaque fois qu'on vous donne un sujet, que ce soit pour un roman ou pour une nouvelle, il faut vous y mettre un cheval.
Oui, il y a un cheval. Non, mais je dis toujours, c'est plus fort que moi, ils apparaissent partout. Là, dans le dernier, la mort du temps, après, il ne devait pas y avoir de cheval des loups et les enfants caméos qui se sont imposés. Donc là, effectivement, dans la nouvelle, j'avais envie, en fait, le sujet, il est quand même assez large. Destination, enfin, moi, avant de publier des romans, j'ai publié beaucoup de nouvelles. Donc, j'ai participé à beaucoup d'appels à texte, donc c'est quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise, en fait, de répondre à des commandes sur des thèmes. Et l'année dernière, vous m'avez fait un sale coup. Vous m'aviez programmé au jeu de l'imaginaire. J'ai remis des sujets dans des petits chapeaux et on devait improviser une histoire à partir de thèmes. Je suis sûr que là, c'était difficile. Il y avait eu l'échangisme dans l'espace, le lapin radioactif. Donc, à côté, écrire une histoire sur destination, là, il n'y a pas de problème. voilà, j'étais partie sur un sujet. Donc, j'ai traité de sujets qui m'intéressaient actuellement, et notamment sur la religion.
Vous êtes encore un jeune auteur puisque vous avez publié peu de nouvelles, dont d'ailleurs la première a été publiée en Australie, en anglais.
C'est pas la première, mais en effet, il y en a une qui a été publiée en Australie.
L'Australie, ce qui est quand même incroyable, d'ailleurs elle va prochainement être publiée. Est-ce qu'il y a déjà eu la confirmation? On peut dire ou pas?
Comme je veux.
Bon, on peut le dire.
Oui.
Dans la revue Galaxie, dans quelques mois, je ne sais pas exactement quand. Et donc cette nouvelle qui est dite en français, est parue en Australie, elle a d'ailleurs été reprise dans un best-of.
Oui, j'ai eu la chance d'être reprise une deuxième fois.
Pas la chance, seulement, il ne faut pas toujours être trop modeste. Quand on est dans une anthologie australienne, publiée dans le best-of des textes de l'année de la SF australienne, qui a pourtant de bons auteurs, c'est quand même assez flatteur et c'est quand même une reconnaissance. Alors bon, ce texte paraîtra dans Galicie, et puis depuis, vous avez écrit deux romans, le premier Loire, qui a été publié à une petite maison, auquel je rends hommage, même si elle a disparu aujourd'hui, qui s'appelait Griffe d'encre.
Tout à fait, quel genre d'hommage,
voilà, qui a publié beaucoup de livres et d'auteurs intéressants, dont justement Loïc Henry. Et ce roman a été, reste donc disponible heureusement, publié, réédité en poche chez Folio SF. Et puis le dernier roman chez Scrignero, rappelez-moi le titre, Loïc Henry. ça c'est dans Stellaire, hein. Le Havre était déjà un petit peu maritime, mais là je pense qu'il y a peu de chances que j'écrive un roman de science-fiction qui soit plus océanique que les océans Stellaires.
Comment faire un roman de science-fiction qui est un vrai space opéra qui néanmoins parle beaucoup de mer et de profondeur maritime?
Alors Marc, on a fait une phrase, c'est que c'est un space opéra sans space, puisqu'en fait les voyages se font via les seuils dans les abysses, donc on peut dire que c'est un nouveau style de water opéra.
Bien. Alors, évidemment, à partir du moment où vous êtes lancé, vous aimez le space opéra, on vous a proposé destination, vous n'êtes pas contenté de la Chine, le petit bras, vous n'êtes pas, très beau texte néanmoins, vous n'êtes pas contenté d'aller sur une planète au bout du cul du monde, hein, on verra ça avec Jean-François Thomas, vraiment une planète qui ne mérite pas qu'on y débarque, mais vous nous avez entraîné beaucoup plus loin avec une nouvelle qui s'appelle SMA, ce que vous pouvez sans évidemment révéler en dire quelques mots.
Oui, alors je vais parler de la base en fait. La base, c'est la différence, ça peut partir d'une devinette, c'est la différence entre les abeilles et les fourmis. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles, en général, quand elles essaiment, elles séparent la ruche en deux, donc il y a deux reines. Et donc il y a une colonie qui part avec beaucoup de chances de réussir à s'implanter. Et les fourmis, elles ont une stratégie différente, c'est-à-dire qu'elles envoient énormément de reines, avec très peu de chances de survie, parce qu'ils sont. Que les quatre tombent, on va dire. Donc, globalement, il y a une probabilité très forte d'échouer, mais ils en voient tellement que sur le tas, il y en a plusieurs qui réussissent. Et je me suis posé la question de dire si à un moment, les hommes étaient contraints, alors sur le plan contraint, je mets des guillemets, mais je sens trop en dévoiler, mais si les hommes étaient contraints de quitter la Terre pour essaimer, est-ce qu'ils choisiraient de répliquer le modèle des abeilles ou le modèle des fourmis? Et dans ce cas-là, ils ont plutôt répliqué le modèle des fourmis. Après, je ne vais pas trop en dévoiler.
C'est quand même que nos festivaliers découvrent l'anthologie et vos textes. Notre auteur suisse, alors deux auteurs suisses au sommaire, on aurait pu en avoir plus, hein, j'avais proposé à quatre auteurs suisses d'écrire, mais les délais et les contrats ont fait que seul François Rouillet et puis Jean-François Thomas ont pu fournir une nouvelle. Jean-François Thomas, vous avez choisi de nous faire là aussi un texte de planète opéra, de space opéra, quoique. Et Chacroix 3, c'est vraiment une planète. Si je reprends un petit peu le texte, c'est quand même pas un endroit où on vous invite de passer ses vacances, apparemment. Je donne le début. Voilà. Devant tout ce dossier, une ferme, rustique bâtiment de bois composé de plusieurs dépendances, qui abritait certainement un humour humain. Ce qui ressemblait à un jardin potager, bordé le côté gauche de la maison principale. Un verger et quelques champs manifestement cultivés occupaient le côté droit et derrière l'ensemble. Une feuille de feuillus d'un marron éclatant s'étendait à l'horizon. Valardo, toujours vigilant à son poste de tir, et qui, chasseur expérimenté, aimait cependant la nature, se fit la réflexion que cette forêt manquait de diversité. À perte de vue, une seule essence semblait dominer la cible. Sa curiosité, certainement avivée par le sifflement de l'aéroglisseur, une femme était sortie de la ferme. Visiblement effrayée, s'agrippant en montant de la porte, une main plaquée sur la bouche, la fermière ne bougeait pas et regardait fixement l'arrivée de l'attelage et de son étrange accompagnateur. L'homme lui cria quelque chose, puis sauta en bas de sa carriole pour la prendre dans ses bras. La femme hocha la tête et lui, tenant toujours la femme d'un bras, fit un ample signe de l'autre bras pour inviter les visiteurs à les rejoindre. On a l'impression qu'on tombe vraiment dans une planète de type moyenâgeux.
L'idée de le thème destination qui peut décliner comme l'a dit Stéphanie en destin et destination, j'ai utilisé les deux éléments, l'ambassadeur qui se rend sur une planète lointaine, c'est la destination. Et en fait, le récit dont je ne peux pas dévoiler la fin, puisque c'est une histoire à chute, le récit va amener à conforter le destin d'une nation. D'une manière que je ne peux malheureusement pas révéler, parce que l'histoire perd son sens. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à rédiger cette nouvelle, parce que le thème qui effectivement est très large permet de pouvoir laisser aller son imagination. Et en l'occurrence, c'est effectivement un planète opéra, parce que ça se déroule sur une planète qui quelque part existe parce que j'ai effectivement
système qui existe, la planète existe, mais je l'ai interprété parce que je n'ai jamais vu d'avant.
Fabien, ça vous êtes lancé dans ce récit avec Jean de Montville, avec cette. On sait presque le récit de Marco Polo quelque part. Hein.
Ouais, il est très proche, Jean de Montville, de Marco Polo.
Pourquoi, dans cette nouvelle, comme dans vos romans, qui, je rappelle, sont dans le même univers, mais des romans indépendants, chacun se raconte une histoire autonome, pourquoi vous êtes aussi fasciné par le Moyen-Âge, en tout cas le Moyen-Âge reconstruit, mythifié, modifié, pourquoi vous avez reconstruit en fait un Moyen-Âge alternatif avec cette champagne elfique? Qu'est-ce qui vous a passionné, vous, la magie d'histoire, dans ce thème qu'on retrouve évidemment dans votre longue nouvelle, Novella?
Mélanger l'histoire et l'imaginaire, c'est un petit peu l'histoire de ma passion, de ma vie depuis que je suis adolescent. Donc, ça, c'est même pas réfléchi, ça s'est imposé comme un élément naturel de travailler sur l'histoire concrète. Et j'ai toujours aimé particulièrement l'histoire du Moyen-Âge depuis que j'ai eu en cinquième un professeur qui m'a passionné sur cette période historique, qui s'appelait le professeur Perceval. Ça n'informe pas. Et donc j'ai eu également comme professeur d'histoire Madame Chevalier. Alors forcément, après j'étais marqué à vie et je ne peux pas sortir de sans les trahir, sans trahir leur mémoire. Je ne pouvais pas sortir de cet axe de départ extraordinaire. Et puis après, évidemment, à l'adolescence, j'ai découvert tous les romans imaginaires américains et autres, francophones aussi petit à petit, et quand ça commençait à se développer davantage. Et les deux mixés m'ont amené à travailler sur un Moyen-Âge qui est, donc c'est la théorie de mes livres, hein, qui est notre Moyen-Âge, effectivement, puisque toute l'idée, c'est qu'entre ce Moyen-Âge-là et aujourd'hui, quelqu'un, quelque chose, a modifié, manipulé, transformé l'histoire de manière à ce qu'aujourd'hui, tous ces éléments étranges soient passés dans le domaine des légendes, du folklore, et aient été décrédibilisés par quelqu'un, par quelque chose. Et lisez mes livres, vous le saurez.
Un petit extrait. Les mythes des premiers elfes disaient ont dévoilé qu'à la fin des temps, les nations se nourrissant de la source, ayant vu grandir le monde, quitteraient leur foyer afin de rejoindre les terres immortelles, havre de paix et de renouveau. Loin, très loin, au-delà des océans, des mers, du vide, des abysses. En y repensant, la comtesse était persuadée que les premiers avaient conféré au guide des nations elfiques le titre de Faedin ou Faedinan, afin de les encourager à prendre la bonne décision au moment venu. Le terme signifie étoile parce que c'est dans cette direction qu'il convenait de mener les leurs et de guetter le salut. Alors on imagine que, à cette époque, évidemment, les héros ont besoin de se guider. C'est un peu comme ça que vous travaillez, en vous appuyant sur aussi une réalité historique.
Tout à fait, la réalité historique est vraiment au cœur de ce que j'écris et me guide. Voilà, c'est l'étoile qui guide.
L'étoile du berger,
sur l'étoile du berger.
On n'en dira pas plus parce qu'évidemment, là aussi, il y a des choses intéressantes que notre héros va découvrir. Et ces pages, les êtres humains, des abeilles ou des fourmis, est-ce qu'il y a un certain pessimisme, Loïc Henry, même si vos histoires sont pleines de passion, pleines d'aventures, des personnages parfois sympathiques, mais est-ce que globalement, vous n'êtes pas, concernant l'espèce humaine, un peu pessimiste?
C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas.
C'est plus amusant.
En fait, je suis pas très fait. C'est-à-dire que oui, il y a une forme de pessimisme. Il y a toujours un peu d'anthracite, on va dire, dans l'optimisme, un peu de lumière dans le pessimisme, si je puis dire. C'est vrai que la conquête spatiale, elle génère beaucoup d'optimisme. Parce qu'il y a énormément de potentialité. Là, actuellement, on parle de Mars, on parle d'un certain nombre de choses. À titre personnel, c'est vrai que je pense que le fondement de tout, c'est l'espèce humaine. Et l'espèce humaine, comment je pourrais dire ça, elle ne pousse pas vers un optimisme
ça me paraît un peu contraire à ce que l'homme a vécu jusqu'à maintenant.
Petit extrait pour entrer dans les images, la nouvelle théorie. Le chef de cabinet consulta sa tablette avant d'énoncer à Santa Maria de la Immaculada Conception, comme le bateau amiral de Christophe Colomb, murmura le président Wilson. Ils savent qu'il a fait naufrage lors du retour. Je l'ignore, monsieur. Ils ont raison après tout, s'il n'y aura pas de retour. Ty Wilson consulta l'écran qui listait les données statistiques sur les 160 000 passagers. Ce voyage regrouperait une communauté homogène d'hispaniques catholiques issues d'Amérique du Sud et d'Espagne. Votre avis? Tout est en ordre, monsieur, les ratios sont conformes. La pyramide des âges est équilibrée, l'engagement est ferme pour plus de 95% des volontaires. La moyenne des coefficients intellectuels un peu au-dessus de la norme. Combien de religieux? Environ 300, de prêtres pour l'essentiel. Ty Wilson haussa les épaules. Il n'avait pas validé l'équipage ouvert depuis plus de 3 mois. Les volontaires se regroupaient par affinité, nationalité, langue, religion, passion parfois. Espérer les voyageurs recréer ailleurs une communauté d'âmes qui partageraient les mêmes valeurs. Lors de l'annonce officielle de l'essaimage d'Internet et les médias, avaient décidé une myriade d'articles sur les bienfaits de la mixité et de la pour croiser les différences. Pourtant, la réalité avait tranché en faveur du mode tribal, comme si la certitude avait craqué le minimum, le mince vernis de civilisation et de tolérance de l'humanité. Date de départ prévue, dans 3 mois, le 8 juillet exactement, un vaisseau disponible. Bien, validez, je vous en prie. Je vous prie. Combien reste-t-il? C'était le dernier, monsieur. Seulement 7 aujourd'hui. C'est toujours ainsi fin décembre. Le début d'année prochaine sera sans doute plus dense et nous devrions dépasser la barre des 40 000 d'ici mi-janvier. C'est un sacré exode.
C'est vrai que l'exode, parce que ça, je peux le livrer assez facilement, parce qu'on le voit tout de suite. L'idée, c'est de vider complètement la Terre, c'est-à-dire que cet essaimage, il a pour but de vider la Terre, une catastrophe qui, de toute façon, va la détruire. Donc, les hommes sont confrontés à un autre choix qui est de partir ou de périr. Enfin, en tout cas, c'est ce qui semble être la situation. Et c'est vrai que, pour revenir sur l'extrait de Stéphanie, je pense qu'il y a une citation qui est assez. C'est la révélatrice de cet extrait, c'est qui oublie que l'homme est à moitié un animal, mais que la moitié d'un homme. Et je pense qu'on a parfois tendance un petit peu à l'oublier, c'est-à-dire qu'on a tous en nous, qu'on le veuille ou non, une part d'animalité, et qui est liée quelque part à la survie et aux besoins physiologiques. Et plus les conditions sont difficiles, plus les contraintes sont fortes, plus cette part est sans doute présente et importante parce qu'elle est intrinsèquement liée à notre. À notre survie et à la façon dont nous avons évolué par le passé.
Le début de votre texte, Bucéphale au cœur des ombres. La nuit au cœur des dunes, le froid devenait intense. La laine des 5 chevaliers fumait dans le noir. Ils se tenaient reproduits autour du feu, les bras en serrant leurs genoux pliés, les flammes animant des reflets oranges dans leurs yeux là, sur les côtes de mailles et les jambières en acier. Personne ne parlait, mais tout savait à quoi l'autre pensait. Marchant au bord de soif, ils n'avançaient pas assez vite pour espérer sortir vivants du désert. Sans eau, sans provisions, ils tomberaient les uns après les autres. Thibaut le forçat n'avait pas peur de mourir. S'écrouler là sur les traces de son Dieu n'était pas un déshonneur. Mais devoir s'incliner si près du but après tant d'épreuves l'enrageait. Le souvenir de leur départ, 3 ans et 3 mois auparavant, était encore vif dans son esprit. Tandis qu'il ruminait devant le feu, il pouvait presque se voir avec sa tunique blanche cousue de la croix rouge de Dieu. Il se tenait le droit. Dos droit, surveillant, son destrier de guerre, les plates de son armure mutilées, les armes hérissées et hanches ses épaules. Combien était-il à ce moment rassemblé dans la cour de la forteresse? 100, davantage, puis 200, 300, 1000, 1500, emportés par un grand élan mystique. Même les femmes et les enfants les avaient rejoints. Des paysans avaient mis des fers à leurs bœufs pour les accompagner, demandant tout joyeux et qui voyage château une ville, si c'était là cette Jérusalem qu'ils espéraient tant atteindre. Nous voilà plus que 5. Aujourd'hui, songea Forceval à Basaud. L'affaire semble mal engagée.
C'est un texte assez sombre en fait. À l'époque où je l'ai écrit, j'avais peut-être l'intention d'écrire un roman qui prendrait pour thème les croisades. Je me suis dit que c'était intéressant d'y réfléchir à travers le format de la nouvelle. Après, c'est vrai que. J'ai pas trop envie de parler de ça, parce qu'on va tous se battre, parce que la religion, c'est quand même un sujet assez sensible. Donc, c'est quand même un texte assez à charge, je crois, sur le sujet de la religion. Et serré, bridé, il est tout seul, il est très très beau. Et quand vous montez sur son toit, vous ne pouvez plus en descendre. Il vous emporte. Et un peu dans la même veine, c'est un folklore très très local du sud de la France, de l'Aigues-Mortes, avec le cheval loup drapé. Alors loup drapé, il se promène la nuit. Et les enfants sont plus joyeux de rencontrer cet animal, monte sur son dos. Et au fur et à mesure qu'il y a des enfants qui montent sur son dos, le dos de loup drapé s'allonge pour pouvoir avoir de plus en plus d'enfants. Et quand il y en a suffisamment à son goût, il part au galop, il va se jeter dans les marais d'Aigues-Mortes en emportant tous les enfants. Donc c'est vrai que c'est un folklore que j'avais. C'était de dire ça, oui, ça, j'allais dire ça m'amuse, qui mange les plus chauds, mange les êtres humains. Mais voilà, j'ai un peu mêlé ces influences pour écrire cette nouvelle.
Petit extrait de Roi Cornu, Stéphane Plateau. Je vous jure, les unicornes n'étaient pas qu'une partie de plaisir. Lorsque ces créatures se mouvaient lentement au début de course, elles demeuraient en surface, les chinois, leurs cavaliers gardaient le ventre sec. Mais sitôt qu'elles accéléraient, elles adoptaient la nage des dauphins. Plonger la tête la première sous la houle en arrondissant le dos et disparaître au-dedans, la queue levée au ciel. Puis pointer à nouveau le museau dehors un peu plus loin, décrire un arc de cercle à l'air libre avant de plonger encore dans un cycle incessant. Ainsi, ses compagnons se retrouvaient donc à moitié du temps sous l'eau glacée. Ils n'ont d'autre choix que d'apprendre à respirer entre chaque immersion. Aronneur avait pour lui ses maîtrises de ramine. Il n'eut pas trop de mal à trouver son souffle dans le pour les plus difficultés à s'accoutumer à ces grandes plaques froides qui le suffoquaient une fois sur deux. C'est à peine s'il paraissait s'en ressentir, l'océan était devenu son élément et se livrait à lui avec une joie furieuse, fixée sur le flanc de son narval, sa lance de bronze, on balait les vagues, on n'en dira pas plus. Finalement, il y a un basculement dans votre texte entre l'eau, la mer, le rivage et puis l'intérieur des terres. Est-ce que c'est volontaire?
Un basculement entre l'eau, la mer et l'intérieur des terres.
Parce que quand votre nouvelle commence, on est dans les terres. C'est pas un peuple vraiment maritime. Et là, visiblement, sans rentrer dans les détails de l'histoire, vos personnages arrivent sur le rivage et vont même faire quelques expériences avec certains. On n'en dira pas plus. Certains, comment ça, des unicornes.
Voilà, des unicornes, voilà. Alors, en effet, Aurélien dans les chevaux. Moi, je tue à peu près un cheval par un, dans chacun de mes tomes. C'est vraiment un strict minimum. Par contre, ici, j'ai pris le grand. Voilà. Par contre, ici, j'ai la joie de mettre en scène des personnages qui chevauchent des unicornes. Alors, pour la petite histoire, effectivement, on l'a sollicité pour l'anthologie sur les licornes et les trolls. Et j'avais déjà pensé à la même histoire. J'avais déjà travaillé sur la licorne et en documentant un petit peu, je m'étais rappelé qu'au Moyen-Âge, la licorne, c'était la corne du narval qui avait été conservée, vendue comme des cornes de licorne. Ici, on a effectivement les émissaires de ce peuple de réfugiés, en fait, de ce peuple qui s'apprête à migrer vers une île qui est un peu leur terre promise, qui vont chevaucher des narvals grâce aux voix cornues qui en a acquis le pouvoir.
Oui, c'est aussi, même si c'est un récit qui s'inscrit dans le cadre de Manèche, hein, c'est beaucoup plus tôt, hein, si je me rappelle bien.
Oui, c'est plutôt, on est aux frontières de l'âge du bronze, là. Oui.
Si ça relie à cet univers, quelque part, quand vous racontez votre histoire, est-ce que ce n'est pas aussi à des choses plus contemporaines que vous pensez, c'est-à-dire à la question des migrations et des migrants?
Mais évidemment, Destination, c'est à ça que ça m'a fait penser. Il y a deux semaines, j'ai participé à un colloque à Lyon qui s'appelle le colloque du héros, sur lequel on s'interrogeait sur l'héroïsme, et j'ai commencé par me poser la question qui étaient mes héros. Et je me suis rendu compte que quelque part, les grands héros contemporains, c'était les migrants, enfin, en tout cas, que ceux qu'ils affrontaient, hommes, femmes, enfants, vieillards, c'était extraordinaire. Ils sont en quête d'un ailleurs pour des raisons, ils n'ont souvent pas le choix aussi, ils ont le choix, ils rêvent de se construire une vie meilleure. En fait, si vous connaissez un peu
5, et évidemment tous les auteurs qui vous accompagnent rapidement, Pierre Cure, Pierre Bordage, Olivier Dupeux, Charles Bousquet, Grégory Tarosa, Lionel Davos, Victor Dixon, Estelle Fay, François Rouillet, Adrien Thomas. Vous avez donc, avec ces auteurs, fait partie de l'anthologie. Qu'est-ce qui fait que, pour certains d'entre vous, ce n'est pas la première fois, pour d'autres, oui, qu'est-ce qui fait que ça vous donne envie? Pas le chèque, disons-le tout de suite, ce n'est pas si bien payé que ça, l'anthologie, pour personne, on le fait par passion, mais qu'est-ce qui vous plaît dans une anthologie comme celle des Imaginales?
Moi, j'ai touché 3 millions d'euros, et vous? C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Pardon. une anthologie. Alors, déjà, la nouvelle elle-même, et puis je trouve qu'écrire une nouvelle, c'est une expérience fabuleuse. Parce qu'on la voit se créer à toute vitesse à l'échelle d'un roman, par exemple, en comparaison d'un roman. Et c'est un plaisir de la voir exister, de la voir vivre, de la voir grandir et de la voir atteindre l'âge de raison sans avoir à passer par des mois et des mois de travail, de reconstruction, de relecture, etc., etc. Et donc ça, cette fluidité, cette rapidité de construction, le fait d'avoir un produit fini rapidement qui existe, qui vit, c'est un vrai plaisir. Et alors, l'anthologie des Imaginales, après, c'est effectivement le plaisir de travailler avec des gens qu'on aime bien, venir ici, dans un endroit qui est fabuleux, etc., etc. Ça, c'est tout le plaisir des Imaginales, mais nous connaissons tous ce plaisir, je pense.
Jean-François Thomas.
Oui, alors, moi, j'ai écrit que des nouvelles. J'ai jamais écrit de roman, enfin, pas tout à fait. J'ai écrit un roman de la jeunesse, mais qui n'a pas été publié, qui sera peut-être un jour, il faudrait juste que je m'y remette. Mais j'aime bien écrire des nouvelles parce que j'aime bien avoir la finalité de mon travail. Et j'ai une activité, enfin, j'arrive au bout de mon activité professionnelle, mais enfin, j'ai peut-être toujours très occupé et j'ai pas vraiment le temps de me plonger dans un univers pendant très longtemps. Alors, la nouvelle, c'est un plaisir, effectivement, de pouvoir produire quelque chose de fini, d'achevé et de le voir réalisé. Et moi, ce qui me plaît particulièrement, je remercie Stéphanie Nico pour cette opportunité, c'est de figurer dans l'anthologie des Imaginales, qui est pour moi une anthologie vraiment de référence. J'ai publié pas mal d'anthologies, j'en ai créé moi-même, mais pour moi c'est vraiment une référence et je suis vraiment très heureux d'être en compagnie d'auteurs aussi prestigieux, aussi, enfin, c'est vraiment bien, je suis très heureux. Merci.
Moi, ça fait des années que j'avais envie, en fait. J'ai eu des clés plusieurs fois avec l'éditeur Bandeau et du coup de fou et tout, mais j'avais envie de le faire. Et puis, c'est vrai que la thématique me tentait très fort. Et puis, il y a le défi, hein. Le défi de montrer que je pouvais écrire court, en fait. La première fois, j'expliquais une nouvelle, ça donnait un petit roman de 130 pages. Là, je suis quand même arrivé à une cinquantaine de pages, donc je sens que je progresse encore deux ou trois autour des Imaginales et j'arriverai à tenir la mise.
C'est noté cet engagement devant le public qui sera, vous le rappelez, l'éternel. Je pense que dans 3 ans, il va écrire des récours. La petite personne, c'est un plaisir. Moi, je pense franchement ce qu'ont dit mes camarades, c'est vrai qu'il y a de nouvelles. Enfin, c'est le plus de nouvelles qui avaient dit ça démarre comme une direction volcanique et ça se termine comme un tremblement de terre. C'est lui qui avait dit ça. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut créer un monde, mais en l'esquissant. J'ai l'impression, parce que j'ai pas lu encore toutes les nouvelles, mais Stéphanie va le savoir qu'il y a beaucoup de nouvelles à chute dans l'anthologie. C'est vrai que j'ai tendance, en tant que lecteur, à préférer les nouvelles à chute où il y a une surprise, il y a un moment. Et la nouvelle s'y prête merveilleusement bien. Et quant à l'anthologie des Imaginales, pour moi, quand Stéphanie m'a proposé, j'étais ravi parce que c'est vrai que c'est une occasion fabuleuse. En plus, on a l'occasion de toucher un public de spécialistes, c'est-à-dire que la majorité des gens qui viennent aux Imaginales, c'est des gens qui ont des affinités très fortes pour au moins un des genres de l'imaginaire. Donc pour moi une grande chance, et je remercie Stéphanie d'ailleurs, une grande opportunité de pouvoir être au sommaire d'une telle anthologie. C'est quoi de regarder les noms des autres auteurs aussi quand on lit soi-même?
Le prochain, c'est un petit jeune qui débute, donc c'est... Il faut lui souhaiter bonne chance, je pense qu'il peut se réussir à faire quelque chose. Non,
fait, parce que je ne connaissais pas. Bon, c'est un peu nouveau quand même. Hein, enfin, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, mais quand même, on n'a pas une grande sensibilité. Le fait d'être l'anthologie du marginal, je pense que ça signifie beaucoup pour beaucoup de monde. Enfin, pour moi en particulier, je suis à peu près certain que c'est le cas pour mes collègues ici. Et le fait d'être en compagnie de personnes que j'ai lues et que pour certains j'admire, c'est un grand bonheur. Hein, soyons clairs, il faut pas poser son plaisir. Hein, je suis vraiment ravi. On n'a pas tous les jours l'occasion d'avoir des opportunités telles que celle-là. Et encore une fois, moi j'en suis extatique, on va dire.
Ce qu'il faut espérer surtout, on approche de la conclusion de cette petite rencontre, c'est évidemment que les lecteurs sont extatiques. Est-ce que le but c'est quand même ça, finalement, si on se casse la tête les uns les autres, les uns à écrire des fictions et moi-même à choisir les auteurs, à relire pour, parce que finalement vous êtes des vrais pros tous. Je précise, parce que la question nous est parfois posée. Il n'y a pas de débutant dans les anthologies imaginales. Ce n'est pas que le principe en est impossible, c'est juste que travailler avec un débutant, ça prend énormément de temps. Et que comme l'anthologie ne paye pas, c'est compliqué de passer beaucoup de temps, c'est des rencontres, passer autant de temps sur un seul auteur que sur 12 ou 13, parce que ce sont des professionnels qui ont l'habitude de corriger les textes, qui ont l'habitude de remettre déjà des textes qui sont, franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails de notre cuisine qui n'intéresse pas, je pense, la plupart des lecteurs, mais. Elles sont vraiment anecdotiques. On a fait vraiment un petit travail dans tous les tâches ensemble, mais pour certains d'entre vous, et pour tous en tout cas, on a très peu fait de choses, voire quasi rien. C'est que ça fait quand même plaisir, c'est que quand je réfléchis à ce qu'était la majorité des auteurs de fantasy et de science-fiction il y a 20 ou 30 ans en France, il y avait un travail considérable pour la plupart. Aujourd'hui, vous arrivez d'emblée, je tiens à vous le dire, et vous savez pour ça, un niveau quand même de professionnalisme et d'exigence que moi personnellement je salue. Et je salue aussi même chez les jeunes auteurs qui rament encore, qui se construisent. Mais en général, je ne vois plus comme il y a 30 ans des jeunes auteurs qui refusent de travailler. Et là, trop tard, j'ai eu un moment de faiblesse pour l'anthologie de l'année prochaine. Il y a une jeune auteure dont j'avais lu quelques nouvelles, on l'a bavardé, et je lui ai dit je ne prends jamais d'auteur, j'explique, c'est mal payé, c'est pas possible, c'est trop de travail et tout, et j'ai un moment de faiblesse, c'était sympathique. J'ai lu deux nouvelles d'elle qui étaient bonnes. Du boulot, mais c'était bon, et je lui ai dit bon, je ne garantis pas de vous publier dans l'an prochain des imaginables, mais je vous laisse une place. Donc vous allez voir le sujet, c'était tant le coup. Ça ne marche pas, vous aurez au moins travaillé un texte et puis vous l'améliorerez en dehors de moi. Et si jamais on y arrive, pas mal quoi, d'être à côté quand même de les grandes signatures. Donc voilà, je suis l'exception à ma règle, on verra si elle aboutit, sinon je ne donnerai pas son nom. Et si ça aboutit, ben, vous découvrirez une jeune auteur. Mais la règle, c'est plutôt un panorama de l'imaginaire. Français, vous avez compris maintenant que dans cette anthologie d'estimation, il y a la science-fiction, il y a la fantaisie, une majorité de fantaisie, mais pas mal de SF, il y a un ou deux textes qui sont un peu entre les deux. Et puis en tout cas, vous avez des gens qui ont respecté le sujet, qui l'ont traité chacun à leur façon. Je vais laisser la conclusion évidemment à Aurélie Wallenstein, tout simplement, parce que s'il y avait bien quelqu'un qui était impérativement primus inter pares, comme on disait chez nos amis latins, parmi ces pertes, c'était évidemment Aurélie Wallenstein, parce que cette année, comme vous le savez tous, les coups de cœur du Festival Imaginal. Alors Aurélie, être dans Destination, coup de cœur, vous l'avez dit, nerveux non plus, mais être dans Destination, à côté d'auteurs quand même déjà aussi reconnus que vous, voir comme Bordage des monstres sacrés, avec la gentillesse et la simplicité d'un Pierre Bordage, ça fait quoi quand on a commencé il y a quelques années de venir aux Imaginales comme simple festivalière? Pas de simple festival, il y a des festivaliers sans vous, on ne ferait pas tout ça.
C'est vrai que l'anthologie du festival, c'est l'institution. Ça fait longtemps que je la suis, j'ai tous les exemplaires à la maison, certains dédicacés par tous les auteurs après la chasse de dédicaces. Vraiment, j'étais, quand tu m'as demandé de participer à l'anthologie, j'ai sauté du rail, j'étais trop contente d'avoir
quelques heures, vous allez découvrir dans Destination 14 auteurs, j'ai dit 13 auteurs, c'est 14 écrivains, avec chacun leur univers, chacun leur façon de raconter.